Baruch Hashem, on a passé les deux jours de Rosh Hashanah. On est dans les dix jours de pénitence, de tshuva. Sainte Yemet tshuva. Et notre travail, c'est donc de faire tshuva. Quand il s'agit de faire tshuva, alors automatiquement on a une vue qui s'ouvre dans toutes les directions et on voit beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Même quand on a l'impression d'être bien, d'être bon, si on cherche, c'est sans fin. Et quand on voit les choses de cette façon, bien on arrive à un refroidissement intérieur, à yiouch, qui nous bloque, qui nous empêche de faire quoi que ce soit. On perd le courage d'avancer, de réparer. Et on risque de rater mettre une mitzvah merveilleuse de tshuva en faisant à peu près, quand à peu près ça ne vaut pas grand-chose, au lieu de faire de façon claire cette mitzvah de tshuva. Quelques exemples. Chachamim disent, la Shonara pèse contre les trois grandes averot, Avodazara, Giloui Arayot, Shfichut Damim. Et cette faute de mauvaise langue, c'est une faute qu'on a tous. En petite quantité, en moyenne quantité, mais ça ne change pas grand-chose. Si la langue est libre de parler comme elle veut, on tombe forcément dans le panneau à plusieurs reprises dans la journée. Puis à ce moment-là, on est dans une situation extrêmement grave. Autre chose, nos sages nous disent, le Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah, c'est une mitzvah qui a la valeur, une valeur plus grande que toutes les autres mitzvahs de la Torah. Au point où dit le Yerushalmi, un mot de Torah, un Dvar Torah, une halakha, vaut plus que toutes les mitzvahs de la Torah. Kol chafatzecha lo yishvuba, même les mitzvot qu'Hachem aime, eh bien, elles ne valent pas par rapport à une petite étude de Torah. C'est beau, c'est puissant. Mais le Gaon de Vilna il dit que ça va dans les deux sens. La mitzvah de Talmud Torah est plus grande et plus puissante que toutes les mitzvahs de la Torah. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les faire. On doit tout faire. Et quand on ne peut pas les faire par quelqu'un d'autre, on doit s'arrêter au milieu de l'étude pour faire. On ne travaille pas pour gagner plus. On fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à chaque instant. Donc bien entendu, quand une mitzvah se présente et qu'on doit la faire, on doit s'arrêter de notre étude et faire la mitzvah. Mais le Gaon dit que ça va aussi dans le sens opposé. De la même façon que l'étude de la Torah est plus puissante que toutes les plus importantes, plus belles, plus grandes que toutes les autres mitzvot de la Torah, de la même façon, la faute du bitul Torah, la perte d'une mitzvah d'étude de la Torah est plus grave que toutes les averot de la Torah. La perte, ça veut dire en d'autres termes, quelqu'un qui n'est pas occupé par quelque chose qui est nécessaire pour sa santé, pour sa parnassa, pour sa famille, et là, qui est battel, qui ne fait rien à ce moment-là et qui aurait pu à ce moment-là étudier donc la Torah, quand quelqu'un doit travailler pour amener le pain qu'il a besoin à la maison, la parnassa de la maison, pendant ses heures de travail, il n'a aucun problème de bitul Torah. Il n'a pas de issour de bitul Torah, puisqu'en fait, il va faire ce qu'il doit faire. Quand quelqu'un va devoir se laver, il est dans sa truc, s'il ne s'endort pas là-bas, il ne perd pas son temps. Mais quand on rentre pour se laver, pour s'habiller, pour acheter un habit, des choses qui sont nécessaires pour le corps, pour la vie, pour le fonctionnement de notre vie, bien, sont des choses qui ne sont pas sur le... On n'appelle pas ça un bitul Torah quand on va faire ces choses-là. Mais quand on a du temps libre qui part en fumée pour rien, ou quand on utilise notre temps pour des bêtises, pour des choses qui n'ont aucun sens et aucun besoin réel, à plus forte raison quand c'est utilisé pour quelque chose qui correspond tout simplement au domaine des samim, des choses inutiles qui abîment la santé, abîment la vie comme fumée, etc., eh bien, à ce moment-là, Bémet, chaque instant est mesuré et pesé comme une perte de temps d'étude de la Torah. Et à ce moment-là, bien entendu, qui c'est qui tient devant ce genre de choses? Qui c'est qui est capable de dire « l'obitalti Torah » Je n'ai pas perdu des moments, des heures, des minutes, des voix, des jours, des semaines, des mois dans l'année dans lesquels j'aurais pu étudier et je n'ai pas étudié. Donc, Bitul Torah, c'est une avéra qui est extrêmement grande. Et c'est une avéra par rapport à laquelle on n'a aucune possibilité matérielle et pratique באמת d'être clean, d'être propre par rapport à Hashem Yitbarach, donc de ne pas tomber dans le panneau. On a donc beaucoup d'avérot comme celle-là. Une mitzvah de ve'avta le'racha kamocha. On a une mitzvah d'aimer chacun du peuple d'Israël. C'est une mitzvah qui nous engage à chaque instant de notre vie. Les gens, on les rencontre. Chaque personne, elle a une autre tête. Chaque tête, elle a une autre façon de réfléchir, etc. On n'accepte pas tout le monde. On ne reçoit pas tout le monde. On ne respecte pas tout le monde. Très souvent, ça va bien au-delà du respect. Ça va, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire, on hait, on se fâche avec, etc. Ce sont donc des fautes qu'on peut avoir en quantité dans notre vie à nous, en étant shomer Torah et mitzvot. On peut avoir malgré tout énormément de fautes. De la même façon, il y a un issour de l'otikpot et yadcha quand on a un pauvre qui demande, qui a besoin d'avoir une tzedaka et qu'on se retient de donner. Quand on a les possibilités, qu'on a des besoins qui sont évidents. Des fois, on a des kranotes qui s'ouvrent pour des cas extrêmement compliqués et qu'on se retient de donner par kamtsanout, parce qu'on essaye d'économiser, de garder ce qu'on a pour nous-mêmes. On ne libère pas facilement ce qu'on a dans la poche. On a un grand amour avec notre argent, on préfère l'utiliser pour nos besoins à nous, pour nos envies, pour nos profits à nous, que d'aider les pauvres qui n'ont pas de quoi manger ou des gens qui sont en difficulté. Eh bien, toutes ces avérotes, ce sont des choses qui se présentent à nous tous les jours. Si on compte ces fautes, etc., on va se trouver ben, mettre avec un amas de fautes, malgré tout le bien qu'on a. Et à ce moment-là, on risque d'arriver avec il y a des dizaines de fautes de ce genre. On risque d'arriver très facilement à ben, mettre un yihouch. On va dire, comment est-ce que je vais pouvoir réparer tout ça? Jamais j'arriverai. Et quand on arrive à cette situation, eh bien on risque de rester comme ça froid le jour de Kippour, de lire la tefila, demander pitié à Hashem Yitbarach sans faire une réelle tshuva. Il faut savoir que ces réflexions sont des réflexions qui appartiennent au Yetzer Hara. HaKadosh Baruch Hu nous demande quelque chose d'autre. La tshuva, il ne faut pas la regarder comme un grand ours, comme si HaKadosh Baruch Hu essaye à tout prix de nous faire tomber dans le panneau et de ne pas réussir. Chas v'shalom. HaKadosh Baruch Hu, il est bon. HaKadosh Baruch Hu, il veut notre bien, notre réussite. Et HaKadosh Baruch Hu, même quand il nous demande des choses, il nous demande des choses qui sont à notre niveau, à nos forces. Et c'est pourquoi la Torah dit « Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach » Qu'est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu demande de toi? « Ki im le'ira » Seulement de le craindre. Et nos sages nous disent « Mais c'est ki im le'ira » Le'ira, milta zutreti » C'est quelque chose de petit, parce que c'est le sens du pasouk. En d'autres termes, le sens du pasouk. Je ne te demande pas beaucoup, je te demande un minimum, une petite chose à faire. Kim l'ira. D'autre part, le pasouk dit aussi, lo bashamaimi, lo me'ever layam. Cette Torah que je te demande d'accomplir, elle ne se trouve pas de l'autre côté de l'océan, elle ne se trouve pas dans les cieux. Karov elecha me'od. Cette chose, elle est très proche de toi. Beficha o bilvavcha la soto. Dans ta bouche, avec ton cœur, tu peux la faire. En d'autres termes, cette Torah, la tshuva, qui est bémet, cette mitzvah, de laquelle, d'après une partie de nos sages, c'est le sujet du pasouk, eh bien, cette mitzvah-là de tshuva, elle est proche de nous. Elle est dans notre bouche, dans nos cœurs. On a juste un effort à faire, quelque chose à faire. On peut, oui, être mekayem, cette mitzvah merveilleuse de tshuva. Quelle est la façon de voir pour avancer, bémet, pour réussir à faire cette mitzvah qu'HaKadosh Baruch Hu attend de nous pour arriver le jour de Kippour en faisant bémet le pas qu'HaKadosh Baruch Hu nous demande de faire en avant, pour changer, pour avancer, pour monter vers Hashem Yitbarach, mi aller la Hashem. Qui est-ce qui va monter sur cette montagne d'Hashem Yitbarach? Pas monter, redescendre ou dégringoler de l'autre côté. La montée, rester sur cette montagne, avancer de façon fixe, de façon solide. On demande pourquoi HaKadosh Baruch Hu a fait que Kippour vienne après Rosh Hashanah. Pour nous, ça aurait été plus simple si Kippour avait précédé Rosh Hashanah. On fait d'abord Kippour, on se lave, on se nettoie toutes nos fautes. Et ensuite, on vient à Rosh Hashanah, on est tous des tzadikim. Si c'est possible de faire le lendemain de Kippour tout de suite Rosh Hashanah, pour ne pas faire de fautes en attendant. Et puis à ce moment-là, on arrive tous au din, au jugement d'HaKadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Et tous tzadikim mourim, on est inscrit dans le livre des tzadikim et le livre de la vie. C'est une question bête, pour une raison simple. Si Kippour était avant, on n'aurait pas fait tshuva. Pourquoi? La tshuva, on peut la faire toute l'année. On n'a pas besoin de Kippour. Quand on arrive depuis le Rosh Chodesh Elul, on sent du chauffard, prépare-toi, fais tshuva, etc. On aurait pu le faire. Donc ça, c'est juste une... Ce n'est pas une question, c'est une réponse. En d'autres termes, si c'était avant, j'aurais fait. Si, on, tu ne l'aurais pas fait même si c'était avant. Tu ne l'aurais pas fait ta tshuva. Et pourquoi tu ne l'aurais pas fait? Seulement quand on s'est tenu devant Hachem, qu'on s'est rendu compte de la puissance du din, de la gravité du din. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, les livres de la vie, les livres de la mort sont ouverts devant toi, Hashem Yitbarach. quand on a reçu ce choc électrique de Rosh Hashanah, on est capable, oui, de faire réellement un pas vers la tshuva. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui nous aime, qui veut notre bien, c'est qu'en fait, la plus belle des choses, la meilleure façon de mettre de l'ordre dans les choses, c'est d'abord de précéder le jour de Rosh Hashanah, de comprendre et de recevoir sur nous le joug du royaume d'Hashem Itbarach, être prêt à s'engager pour avoir la force ensuite de faire cette tshuva, de faire encore quelques pas en avant et de changer notre façon de vivre. La tshuva, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est une tshuva qui doit amener à un changement réel de notre réalité, de notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter, de notre cœur, de nos envies, de nos pensées, de nos demandes, de nos espoirs. C'est toute notre forme qui doit changer par l'intermédiaire de cette tshuva. Pour arriver à ce changement, eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, c'est très clair, sans le choc électrique de Rosh Hashanah, sans cette peur lorsqu'on est là devant Hashem Itbarach, et cette peur en fait qui elle-même est une partie de notre pardon, quand Bémet on a peur d'Hashem, disait le Rav de Brisk, eh bien quand on a Bémet peur, eh bien on peut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu Bémet en fin de compte nous pardonne et nous fera des bonnes zérot. Mais quand on n'a pas peur, quand on n'a pas de crainte d'Hashem Itbarach, quand on n'est pas conscient de son royaume, on n'est pas conscient de notre place dans ce monde, dans cette réalité, eh bien à ce moment-là, ça ne servira à rien. Jamais on fera tshuva, on n'avancera jamais, on fera toujours ce qu'on a envie de faire, on ne changera jamais. En d'autres termes, c'est la forme, Bémet, c'est une réponse simple, mais il y a quelque chose de plus profond et de plus beau dans cette histoire. Rosh Hashanah, c'est le jour du royaume d'Hachem. Le jour de Rosh Hashanah a été créé Adam Harishon, le premier homme. Ce jour-là, Adam Harishon a reçu un ordre d'Hachem, un tafkid, un travail à faire pour Hachem dans ce monde. Il a aussi fauté ce jour-là. Akadosh Baruch Hu lui a aussi pardonné ce jour-là. Bien entendu, avec les conséquences. Les conséquences n'ont pas changé. Mais Akadosh Baruch Hu lui a pardonné sa faute. Et ce jour est devenu Bémet Asiman pour toutes les générations. Akadosh Baruch Hu, le jour où il a créé l'homme, il est devenu de façon fonctionnelle, réelle, roi. La royauté, ce n'est pas quelque chose qui peut être une pensée. S'il n'y a pas de royaume, on ne peut pas parler de roi. Un roi, ce n'est pas quelque chose de théorique. Un roi, c'est quelque chose de pratique qui s'exprime. Pour être roi, Akadosh Baruch Hu avait besoin de créer un homme. Il est Adon, il est maître, il est créateur, il est Elohim, Baal HaKochot Kulam, il est Avaya, c'est lui qui est l'existence même, c'est la seule existence réelle de l'existence. Donc tous ces titres-là existent, il les a à Kadosh Baruch Hu même sans. Mais quand il veut être roi dans ce monde, Hashem Malach Geout Lavesh, Hashem Imloch Leolam Vaed, Vaya Hashem Le Melech, on attend qu'Kadosh Baruch Hu devienne à la fin des temps roi, le seul roi. En fait, le roi, ça veut dire un roi auquel tout le monde se soumette. Tout le monde reçoit, vive ce royaume d'Hachem Idbar et se comporte en fonction des ordres qui sont donnés par le roi. Tant qu'il n'y a pas de personne dans ce monde qui reçoit sur lui le royaume d'Hachem Idbar, qui est prêt à s'engager, à suivre, à l'écouter, à faire ce qu'on lui demande de faire, on ne peut pas parler de royaume et donc on ne peut pas parler de roi. Cette réalité de roi, elle s'est dévoilée juste le jour de la création d'Adam Harishon. Ce jour-là, comme il y a eu un homme qui a reçu un ordre d'Hachem Idbar, qui s'est engagé à le suivre, qui a reçu sur lui, qui s'est engagé à suivre, à faire ce que Hashem lui a demandé de faire. Le'ovdaul Shomra, il l'a mis dans le Gan Eden, il lui a demandé de le garder, de faire attention. Nos sages nous disent, Le'ovda be mitzvah tase, le Shomra be mitzvah lo tase. Il avait donc une mitzvah qui était positive et une mitzvah négative qu'il ne devait pas transmettre. C'était quoi par rapport au Etz Hadaat? Tous les arbres du Gan Eden tu peux manger, mais le Etz Hadaat, Tovara, tu ne touches pas, tu ne manges pas. C'était donc la mitzvah de Adam Rishon et l'engagement négatif, c'est-à-dire la faute qu'il pouvait avoir en puissance, qu'il était capable de faire. Et Adam Rishon reçoit ses ordres et donc est devenu à ce moment-là une personne qui appartient au royaume d'Hashem Itbar, qui subit en fait l'ordre d'Hashem Itbar. Comme ce premier jour de la création est devenu le jour du royaume d'Hashem Itbar, eh bien, chaque année, quand on retourne à ce même jour, comme disent les Kadmonim, l'année juive, ce n'est pas une année qui continue. Une année, une deuxième année, troisième année, centième année. C'est une année qui revient sur elle-même. À la fin de l'année, on reprend de nouveau la première date, le premier jour de l'année, de la première année. On revient toujours, on tourne autour de cette même année. C'est quelque chose de circulaire. Ce n'est pas quelque chose de continu. Et donc, chaque année, on revient de nouveau à ce point-là, ce jour du royaume d'Hashem Midbar. Ce jour-là s'exprime de nouveau. On organise de nouveau le royaume d'Hashem Midbar par rapport au projet de l'année 5779. Et comme on s'engage, on se prépare pour l'année qui va venir, l'année 5779, eh bien, il va y avoir donc un partage de titres, d'engagement, de responsabilité qui va se faire par rapport à ceux qui appartiennent au royaume d'Hashem Midbar, en d'autres termes, le peuple d'Israël. Ce jour de Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu réorganise Kevyachol, son royaume. Quand on réorganise son royaume, on doit forcément faire aussi les comptes, savoir où on en est. Ou comment travaillent ceux qui ont travaillé jusqu'à présent? Est-ce qu'ils travaillent comme il faut? Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'ils perdent leur temps? Est-ce qu'ils détruisent? Est-ce qu'ils construisent dans ce royaume qu'HaKadosh Baruch Hu veut construire? Et là, forcément, donc, on va juger les actions de l'année précédente pour savoir est-ce que cette personne correspond pour un tafkid pour l'année qui va venir, pour un travail qu'on veut lui remettre sur le dos l'année qui va venir. Le Rosh Hashanah, on ne juge pas le passé. Le Rosh Hashanah, en fait, c'est le début d'une nouvelle année. C'est au début d'une nouvelle année. On juge pour l'année qui vient. On décide de ce qui va se faire l'année qui vient. Quand HaKadosh Baruch Hu a créé son monde, il avait un but qui était très clair. Dans ce monde, HaKadosh Baruch Hu se cache. Il se cache, il se met derrière une obscurité. Ce monde s'appelle un monde obscur. Ce n'est pas un monde illuminé de la présence d'Hashem Yitbarach. Eh bien, HaKadosh Baruch Hu se cache et nous donne à nous la possibilité de le dévoiler dans ce monde. Si on fait ce qu'on doit faire, si on dévoile dans ce monde la présence et l'ordre et le royaume d'Hashem Midbar, de quelle façon? Lorsqu'on écoute ses lois, lorsqu'on suit la route qu'il nous donne, lorsqu'on écoute ses conseils, eh bien à ce moment-là, on va dévoiler dans ce monde qu'il y a un peuple qui est soumis au roi Hashem Midbar, et de cette façon, on va s'exprimer le royaume d'Hashem Midbar dans ce monde. Tant qu'il n'y aura pas un peuple qui exprime le royaume qui vit le royaume d'Hashem Yitbar, qui se comporte en fonction des ordres d'Hashem Yitbar, eh bien dans ce monde, il n'y aura pas de royaume d'Hashem. Il n'y aura pas. Le seul peuple qui est capable et qui a ordonné donc de dévoiler ce royaume d'Hashem, c'est le peuple d'Israël. C'est donc le but de toute la création. Le but, c'est d'arriver au jour où Ve'aya Hashem, ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, ce roi, le roi unique, Melech al kol haaretz, Bayom ahu Hashem echad, Ushmo echad, il n'y aura plus aucune émouna différente. Plus personne ne pourra croire en quoi que ce soit, sauf en Hashem Yitbar. Tout le monde se retournera vers lui. Toutes les prières se retourneront vers lui. Toutes les actions se feront à sa lueur, en suivant ses conseils. Le monde entier va suivre et va servir Hashem Yitbar. C'est en fait le but de ce travail. Ce travail qui va se faire, qui doit se faire par les enfants d'Hashem, Kevyachol, Altikre, Banaïch et Labonaïch, eh bien, ces enfants qui vont construire le royaume d'Hashem Yitbar dans ce monde. C'est en fait tout notre travail. Tout ce qu'on fait, toute la journée, toutes nos mitzvot, elles tournent autour de cela. On est là pour construire, pour développer, pour montrer, pour former en fait ce peuple qui va exprimer le royaume d'Hashem Yitbar dans notre monde, dans le monde dans lequel on est. Chez les malachim, eh bien, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est très claire. Le royaume, les ordres, ils sont très clairs. Un malach ne peut pas faire l'opposé de la volonté d'Hashem Yitbarach. Donc toutes les choses sont très claires, sont automatiques. Dans ce monde où on a, oui, une prière, une possibilité de faire le bien et le mal, on est capable de détruire comme on est capable de construire, on est capable de construire comme on est capable de détruire. On est ici pour construire en fait ce royaume d'Hashem Midbar, pour le dévoiler, pour le développer dans ce monde. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un juif qui fait un effort pour Hashem Midbar, par cet effort même qu'il fait, eh bien, il exprime « Je suis serviteur du roi Hashem Midbar ». Et donc, il devient un dévoilement lui-même dans son comportement. Il devient un dévoilement du royaume d'Hashem Midbar dans ce monde. C'est très simple. Ce ne sont pas des choses qui touchent aux données kabbalistiques. C'est une réalité très, très simple de cette notion de royaume dans notre monde. Quand il y a 10 juifs qui se rassemblent et qui prient Hashem Midbar, on a la possibilité de faire une kdusha, de dire Kadosh, Kadosh. Akadosh Baruch Hu se sanctifie par nous, par notre kdusha. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce monde un groupe de 10 personnes qui reconnaît la puissance d'Hachem, la grandeur d'Hachem Yitbarach, et qui peut le dire à voix haute. Et ça donne une possibilité à Kadosh Baruch Hu de s'exprimer dans ce monde. Au moment où on fait la Kedusha, lorsqu'on fait la Kedusha et qu'on élève nos yeux vers Hachem Yitbarach, que Kadosh Baruch Hu nous regarde lui-même dans les yeux, et puis il est heureux, il est joyeux, il a un bonheur de voir ses enfants quand même réussir et faire et dévoiler, le dévoiler dans la plus grande des obscurités qui puisse être. Eh bien, c'est notre travail, tout notre service tourne autour de cela. Toutes nos mitzvot, toute l'étude de la Torah, c'est pour dévoiler dans ce monde. On étudie une Torah, pourquoi ? Ce n'est pas un livre de mathématiques, ce n'est pas un livre de physique, ce n'est pas un livre de philosophie. C'est un livre de Torah, ça exprime quoi ? Qu'est-ce qu'exprime la Torah, l'étude de la Torah ? L'étude de la Torah, c'est très simple. On étudie la volonté d'Hachem. On étudie ce qu'Hachem nous demande, les mitzvot qu'Hakadosh Baruch Hu nous demande, les actions qu'il nous demande. Et quand on étudie Bémet, la volonté d'Hachem, eh bien, on devient quelqu'un qui va se comporter et faire cette volonté d'Hachem Idbar. Et c'est pourquoi la mitzvah de la Torah, de l'étude de la Torah, est une mitzvah qui est la source de tous les accomplissements de toutes les mitzvot. C'est pourquoi elle englobe toutes les mitzvot. Elle est plus puissante que toutes ces mitzvot. Parce que par son intermédiaire, on peut arriver à l'accomplissement, en fait, de ce royaume. C'est la puissance de la Torah, c'est la joie d'Hachem Idbar lorsqu'il a un juif dans ce monde qui est prêt à ouvrir un livre et qui veut étudier ce qu'Hakadosh Baruch Hu enseigne. Étudier, prendre conseil, apprendre, se comporter en fonction de ce qu'Hakadosh Baruch Hu nous enseigne. Et bien à ce moment-là, lorsqu'on va le faire, lorsqu'on se comporte de cette façon, on dévoile par même notre comportement, par notre cœur, par nos pensées, par la façon de penser qui va changer. Lorsqu'on va commencer à penser de façon toraïque et pas à notre façon, à la façon moderne de notre génération, et bien on devient quelqu'un qui pense comme Hakadosh Baruch Hu veut qu'on pense. Et on devient donc une personne qui représente Hachem Itbar dans ce monde. On devient représentant d'Hachem. On est en fait le royaume d'Hachem dans ce monde. C'est tout le travail de l'étude et de l'accomplissement des mitzvot de la Torah. On est là dans ce monde uniquement dans ce but, dans ce sens. C'est vrai qu'Hakadosh Baruch Hu nous paye en fin de compte. Mais notre travail, ce n'est pas d'être payé, de réussir et de gagner pour nous, comme le dit le Zohar HaKadosh Mefoursam de Parashat Bo. Le Zohar HaKadosh dit, « Vaifen kovacho vayar ki en ish » HaKadosh Baruch Hu se tourne à droite et à gauche et voit qu'il n'y a personne. Personne qui fait ce qu'on lui demande de faire. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et personne ne fait ce qu'on demande. C'est notre génération. « Ish ha'achar be'enav yaseh » On fait ce qu'on a envie de faire seulement. Quand ça ne nous dérange pas, on est prêt à faire des choses aussi... qui correspondent à la religion, au judaïsme, aux habitudes des parents, etc. Mais en fait, on cherche notre profit, c'est nous qui nous voyons. Et le Zohar HaKadosh dit très simple, HaKadosh Baruch Hu Kivyachol correspond, ressemble, la Shekhina, la présence d'HaKadosh Baruch Hu dans ce monde, représente un prisonnier qui se trouve derrière des barreaux, qui ne peut pas sortir de ses murailles, de sa prison, et qui a une petite fenêtre avec des gros barreaux par laquelle, eh bien... ses enfants, son peuple vient, peut lui parler, peut lui dire, faire quelques actions, faire quelques paroles devant cette fenêtre. Le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il attend à cette fenêtre et puis il y a une queue très longue jusqu'à la Shkia de la Chama, jusqu'au bout du monde. Les gens qui passent un après l'autre, Kol Bene, Olam, Ovrim, Lefanav, Kivne, Maron, tout le monde passe devant Hashem Itbar. Et on arrive tous, on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, j'ai besoin de Parnassa. Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas marié, je veux une femme. Kadosh Baruch Hu, je veux des enfants. Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il y a ça qui me dérange. J'ai une maladie ici, j'ai un malade dans la maison, j'ai un malade dans la famille. Je connais un malade, j'ai un voisin malade. Chacun demande à ses demandes. Et la journée se termine, tout le monde est passé dedans. Et ensuite, Kadosh Baruch Hu regarde à droite et à gauche et dit, Ribbono shel Olam, Vaifen kovacho vayar ki en ish. Il n'y a aucune personne qui mérite quoi que ce soit dans toute cette ribambelle de personnes qui est passée. Qu'ils soient mes enfants, et ça fait mal. Pourquoi, dit le Zohar HaKadosh, qu'est-ce que je vois, attends de nous. En plus, dans ces demandes, il y a des demandes de très haut niveau. Il y a des demandes qui demandent, je veux être Talmid Chacham. Je veux avoir une part dans le Gan Eden. Je veux avoir le zrout d'être né du Ziv de la Shekhina, de la lueur de la Shekhina dans le monde futur. Je veux être proche de toi. Et tout cela, le Zohar, il appelle, tu demandes comme un chien à recevoir ce que toi tu veux, mais tu oublies ce que moi je veux. Et le Zohar explique qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, Bémet, ce jour de Rosh Hashanah et ces jours de pénitence. Où il attend qu'on arrive? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dit le Zohar HaKadosh, il n'y a personne qui fait Bémet une tshuva pour sauver Kevyachol la Shekhina, la faire sortir de son galoute et puis la ramener à sa place, à son honneur, à son kavod, à son royaume. On est là tous à demander pour nous-mêmes, mais on ne demande pas ce qui est Bémet la raison de toutes nos souffrances. On ne demande pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on demande. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, faire une tshuva illa'a, une tshuva eliona, une tshuva de haut niveau, une tshuva qui permet, kevyachol, d'enlever ces barreaux-là qui se trouvent à cette fenêtre qui est devant, là, qui est à la prison en fait, kevyachol, d'Akadosh Baruch Hu, de la Shekhina. Ces barreaux, ils sont faits avec quoi, ces barreaux? Avec nos fautes. Tous ces barreaux, kevyachol, qui empêchent Akadosh Baruch Hu de s'exprimer dans ce monde, de se dévoiler dans le Beth Amikdash, d'illuminer le monde de sa bonté sans fin, de déverser un chesed sans fin dans le monde et de dévoiler, montrer au monde entier qu'est-ce qui sont ces enfants d'Hachem Idbar, comment il les aime, comment ils sont proches de lui, comment il est proche d'eux, comment il les suit, comment il les protège. C'est ce qu'Akshbach aurait voulu faire et qu'il ne peut pas faire par la faute de nos barreaux qui en fait créent une forme de prison Kéviachol. Eh bien, Akshbach nous demande une chose très simple. Enlève les barreaux pour moi, pour me libérer à moi. Ne cherche pas juste tes profits à toi. Toi, tu es plongé dans tes profits. Il y a plus forte raison dans nos générations. Génération dans laquelle tout ce qui est prôné par les médias, c'est profite, profite. Prends pour toi, prends pour toi. Pense pas aux autres. Prends pour toi, prends pour toi. Lorsqu'on te fait un chocolat qui est spécial, on fait attention, mange-le vite pour que personne vienne te le voler des mains. En d'autres termes, on développe en toi une recherche du profit, du profit, du profit. Pense à toi, pense à toi. Les vacances, les voyages à droite, à gauche, etc. Sans fin, sans fin. C'est un monde qui va tout à fait à l'envers de la direction dans laquelle on aurait dû aller. La direction pour nous, c'est rien pour moi, c'est tout pour toi, pour Hachem Idbar. Le royaume, c'est recevoir sur nous un roi et nous engager. Prendre le royaume entre les mains, devenir une partie du dévoilement divin d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Faire quelque chose de béhémet méritant, quelque chose de puissant, quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. Le faire dans ce monde, avoir une part dans ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque le Mashiach va venir demain, après-demain, il viendra. Il construira le Beth Amikdash. Tu verras dans les pierres du Beth Amikdash. Cette pierre, c'est toi qui l'as faite. C'est grâce à toi qu'elle est là. Waouh! C'est un bonheur sans fin. Qui c'est qui va commencer à mesurer le nombre de voitures qu'il a dans le garage? Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Un bonheur extraordinaire, un bonheur qu'on ne peut pas mesurer. J'ai fait plaisir à Hachem Idbar, j'ai fait ce qu'il voulait que je fasse. C'est en fait notre réelle forme de faire tchouva. C'est la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Moi, je suis là derrière ces barreaux par la faute de vos fautes. Si vous faites une tchouva pour me libérer, pour arrêter ma souffrance, parce que je souffre de ne pas pouvoir vous donner. Quand une mère est bloquée et qu'elle veut donner à ses enfants et qu'elle ne peut pas donner, elle souffre beaucoup plus que ses enfants souffrent quand ils n'ont pas. Parce qu'une mère, c'est l'imagination, c'est le cœur, c'est tout. Les enfants, c'est le manger qui leur manque. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu nous demande, pensez à moi, arrêtez de penser à vous, pensez à moi, sauvez-moi de cette situation, dévoilez-moi dans le monde, enlevez toutes ces barrières, tous ces barreaux qui nous séparent. Eh bien, en fait, c'est cette forme que Akadosh Baruch Hu attend de nous. De quelle façon, Bémet, on peut prendre part à cette construction du royaume d'Hachem Idbar, ce dévoilement du royaume d'Hachem Idbar dans le monde. De quelle façon, Bémet, on peut faire plaisir à Akadosh Baruch Hu? De quelle façon on peut montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on a, oui, une part? Le jugement de Rosh Hashanah, il y a trois livres. Le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim, le livre des Benonim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous juge? D'après un avis dans le Tosfot, le jugement qui est fait, c'est notre valeur par rapport au Gan Eden, par rapport au Olam Haba. L'Olam Haba, ce n'est pas aujourd'hui. On a encore 100 ans. Et même si tu me juges aujourd'hui, où c'est que je suis dans l'Olam Haba, mais demain, je ne serai déjà plus là-bas, ou plus haut, ou plus bas. Les choses changent. Je peux avancer, je peux me développer, je peux aussi tomber, je peux m'écarter. On ne sait pas ce qui va se faire. À quoi ça sert de nous juger le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on vaut par rapport au Olam Haba? Autre chose, Ishmaël, Sarah renvoie Agar avec son fils Ishmaël parce qu'il était commencé à devenir dangereux pour Yitzhak et que le but de la création devait passer par Yitzhak, le peuple d'Israël devait être créé par Yitzhak. Donc, elle écarte Agar. Bien que Agar était devenue aussi la deuxième femme de Avraham, mais elle était la servante de Sarah. Sarah, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola, elle est plus grande que toi en nevoa. Elle sait que c'est ce qu'il faut faire. Elle te dit de la renvoyer, tu la renvoies. Avraham a vu nous donner à Agar une bouteille d'eau, comment on appelle ça, une gourde, Bekitsu, et puis la renvoie. Elle part avec son gosse, elle part, elle se perd dans le désert, l'eau se termine, il n'y a plus d'eau, l'enfant commence à pleurer, elle ne sait pas quoi faire, elle laisse l'enfant sous un buisson, elle s'écarte pour ne pas l'entendre de loin, et puis elle pleure, c'est tout. Et à ce moment-là, le malheur se dévoile, et parle à Agar, lui fait « Agar, qu'est-ce qui se passe ?» C'est quoi cette catastrophe? Pourquoi tu pleures? Et bien, il fait, voilà, il n'y a plus d'eau, le gosse, il va mourir. Le gosse, il avait déjà 13 ans. 14 ans peut-être, 15 ans. Il va mourir. Il fait, Shamati bekol anar ba'asher usham. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant pleurer. Ba'asher usham, dans la situation dans laquelle il était. Cet enfant qui pleurait, il s'appelle Ishmaël. Ishmaël, c'est un nom qui fait trembler le peuple d'Israël. C'est pas seulement dans les époques du passé, on en souffre jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais terminé avec lui. C'est quelqu'un qui est là, qui est présent, qui a les pieds en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans tous les coins. Aujourd'hui, dans toutes les parties du monde, en Europe, aux États-Unis, partout, partout. Ils sont là, branchés, installés, et ils dérangent tous les ordres du monde. Ils font trembler le monde entier, et en particulier le peuple d'Israël. Il a tué des milliards au long des années. HaKadosh Baruch Hu, il sait, il connaît le futur. HaKadosh Baruch Hu, le juge Ba'asher Usham, mais c'est une catastrophe. Sur un type pareil, il faut ne jette pas la pierre, ne le tue pas avec les mains, mais laisse-le sans eau, qu'il crève seul. Shamati, HaKadosh Baruch Hu dit, j'ai entendu sa voix, j'ai entendu ses pleurs. Ba'asher Usham, quand les malachim disent HaKadosh Baruch Hu, non, laisse-le mourir. Il dit, non, comment il est aujourd'hui? Il va tuer tes enfants, etc., etc. Et comment il est aujourd'hui? Aujourd'hui, il est encore propre, il est encore naki, il est encore bien, il a une possibilité de faire tchouva. En réalité, Ishmaël lui-même va faire tchouva à la fin de ses jours. Aujourd'hui, il est jeune, il peut encore faire tchouva. Non, on ne tue pas. C'est quoi cette histoire de Ba'asher Usham? Les Baal et Amoussar disent, le jour de Kippour, il faut arriver à un état dans lequel, même si on n'arrive pas à nettoyer tout, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une tchouva sur toutes nos fautes. C'est évident, il faut faire une tchouva, il faut faire un vidouille sur toutes nos fautes. Il faut bémettre, prendre sur nous au fond du cœur d'être meilleur, de changer le maximum de choses, d'avancer de façon réelle, de changer le maximum. D'avancer encore. C'est vrai qu'on ne peut pas tout changer. C'est vrai que même la moitié, on ne peut pas faire. Mais au moins avancer, montrer qu'on veut avancer. Pourquoi, disent les Baal et Moussa, il suffit que le jour de Kippour, on soit devant Hachem Itbarach, avec une kenout, une vérité profonde, par rapport à laquelle on dit à Kadosh Baruch Hu, Bémet, je veux faire ta volonté. Bémet, je veux avancer. Je veux changer. Et à ce moment-là, on nous juge Ba'asher Usham. Mais la Gemara dit, Adam nidon lefirov ma'asav. L'homme est jugé en fonction de la quantité de ses actions. Si la majeure partie de ses actions est négative, qu'est-ce que ça change de Ba'asher Usham? On a plein de fautes. Ce n'est pas Ishmaël encore qui est jeune, qui n'a pas encore fauté tellement 3 fautes au début de la route. Nous, on en a des fautes. Ba'asher Usham, qu'est-ce que ça va changer? La quantité des fautes, pourquoi elle joue? Elle joue parce qu'en fait, elle va définir où on en est. Quand on a beaucoup de fautes, quand on a une quantité de fautes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bon chemin, on est dans le mauvais chemin. C'est le derrière de la mort, le derrière de la perte, le chemin de la perte, le chemin de la mort. Et c'est pourquoi on fait beaucoup de fautes. On est beaucoup plus attaché aux fautes, au monde des fautes, au monde de la gashmiut. Et c'est pour ça qu'on est lancé dans les fautes, qu'on fait beaucoup plus de fautes. Quand on fait beaucoup de mitzvot, ça veut dire qu'on est branché essentiellement vers cela. C'est pour ça que le rov fixe la valeur réelle de la personne. Mais en fait, cette valeur, ce n'est pas une valeur exacte. On va voir qu'il y a des gens qui ont fait très peu de mitzvot et qui sont considérés comme des tzadikim, des énormes tzadikim aux yeux d'Hachem Itbar. Pourquoi? Parce que la faute, c'est une réalité, c'est le passé. Et la réalité, c'est le cœur de l'homme au moment où il va quitter ce monde et se présenter devant Hachem Itbar pour le dernier jugement. À ce moment-là, où tu en es, toi? Est-ce que, Bémet, tu vis, tu corresponds aux fautes que tu as faites? Ou, Bémet, tu souffres des fautes que tu as faites? Est-ce que toi, tu regrettes de les avoir faits ou tu as envie d'en faire d'autres? Où tu en es? Si Bémet, à ce moment, au moment où on est jugé, eh bien, on arrive avec un cœur propre devant Hachem Itbar. Bémet, je regrette d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je veux faire un changement. Je n'arrive pas à tout faire, mais je veux avancer. Réellement, je veux avancer. Je veux être positif. Je veux prendre part dans ton royaume, Hachem Itbar. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Je veux faire ton tafkid, les ordres que tu me donnes. Je veux écouter ce que tu me demandes de faire. Et bien, à ce moment-là, on a dévoilé en fait notre cœur. Notre cœur a changé. On est devenu positif intérieurement. On avance. On est lancé vers le positif, lancé vers l'action positive d'Hachem Itbar. Ce qu'Hachem Itbar nous demande. Et à ce moment-là, déjà, on a changé. C'est pas la quantité de mitzvot qui va jouer la quantité d'averot. C'est simplement le cœur, la position de notre intérieur. On est tous considérés aujourd'hui pratiquement des benonim. Personne n'est racha gamour. Personne n'est tzadik gamour. Même les grands tzadikim, en tzadik asher yaaseh atov velo yecheta, le pasuk dit, ça n'existe pas de tzadik qui ne fait pas de faute. Et c'est quoi? C'est quoi Benoni? Benoni, on a un cœur pour Hachem, on a un cœur aussi pour autre chose. On est branché dans deux directions en même temps. Zeveze shuftan, dit la Gemara, on est jugé par le Yetzer et par le Yetzer HaTov. Les deux nous font bouger. Même quelqu'un qui est plongé dans les fautes les plus graves et les plus sales, eh bien, il a toujours son Yetzer HaTov qui veut dire, tu es un pauvre, donne-lui la tzedaka. Il fait quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le monde où il est. Il ne fait pas de mitzvot, il ne fait pas de tfila, il ne fait pas de filin, il ne fait pas de tzitzit. Il est loin de toutes les mitzvot d'Hashem Yitbar. Mais malgré tout, il a toujours son côté positif. En d'autres termes, il est rongé dans les deux côtés. Quand le Yetzer HaTov, il l'emballe. Mais ensuite, il regrette. Il y a le Yetzer HaTov qui dit, regarde, tu en es arrivé, regarde quelle tête tu as, tu ressembles au plus simple des simples qui puissent exister. Regarde ce que tu as fait avec ta vie, tu l'as raté ta vie, tu as raté ta famille, tu as raté tes enfants. Qu'est-ce que tu vas avancer, d'où tu vas arriver? On a tous ces sensations qui travaillent à l'intérieur, le cœur est déchiré en deux. On a un Yetzer HaTov, un bon penchant, un mauvais penchant qui travaille en même temps dans notre cœur. C'est notre définition comme Benonim. Benonim, ça veut dire être moyen, avoir une possibilité de changer positivement et de changer négativement. Le Yom HaDin, pour avoir une part dans le royaume d'Hashem Yitbar, c'est que Hashem Baruch Hu décide qui c'est qui va balayer son palais. Qui c'est qui va balayer dans les couloirs du palais? Qui c'est qui va nettoyer les toilettes? Dans toutes les parties, on doit tout partager, tous les travaux qui puissent être. On a besoin de princes, on a besoin de responsables du Haut-Tsar, on a besoin des responsables de la Kalkala, de toute l'économie du pays. On a besoin de beaucoup de travaux qui doivent être faits. Ce sont des travaux et des responsabilités qui doivent être partagés entre le peuple d'Israël. À qui on va donner quelle responsabilité? En fonction de son niveau, en fonction de sa capacité, en fonction de l'envie qu'il a, de la conviction qu'il a de pouvoir le faire et de le faire positivement. Eh bien, tous ceux qui sont bénonymes, en valeur absolue, ils ont une possibilité, oui, de faire s'ils font tshuva jusqu'à Kippour. Et c'est pourquoi, le jour de Rosh Hashanah, tous ces bénonymes-là, le peuple d'Israël entier rentre dans la catégorie de bénonie, on lui donne encore 10 jours pour décider, pour se lancer, pour s'engager, pour être prêt à s'engager. Ce que je crois attend de nous pendant ces 10 jours, c'est d'exprimer bête, une volonté réelle de devenir différent, de devenir plus positif, d'avancer, de prendre ses responsabilités que je vois qu'on nous demande, et de le faire essentiellement pour lui, pour dévoiler son royaume dans ce monde. Pas de le faire pour notre gain personnel, pour notre réussite, pour notre santé, pour notre gain Eden, pour notre gain Olam Hazeh, et là de le faire pour lui. Tshuva, qui sauve la Shrina, qui dévoile le royaume d'Hachem dans ce monde, eh bien, c'est en fait notre travail. La Gemara dit à plusieurs endroits, quand un guerre vient se convertir, s'il accepte toute la Torah, sauf une des mitzvot, il y a une mitzvah qui le dérange, il n'est pas prêt à l'accepter, on n'accepte pas le guerre. En d'autres termes, il n'y a pas d'acceptation de la Torah avec réserve. Ou tu acceptes tout, parce que le royaume c'est ça, ou c'est ton roi, ou c'est pas ton roi. Si c'est ton roi, ils te disent ce que tu dois faire, c'est pas toi qui vas dire ce qu'il faut faire. Donc tu dois écouter, si tu t'engages, tu prends mettre sur toi le jour du royaume d'Hashem Yitbar, tu t'engages complètement 100% à son royaume. Et c'est pourquoi quand quelqu'un vient et ne veut pas recevoir toutes les mitzvot, on n'accepte pas, il n'a rien à voir avec le royaume d'Hashem, on ne le fait pas rentrer dans le peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement pour un guerre, c'est valable aussi pour un Kohen. Un Kohen qui veut rentrer dans son service au Beth Amikdash, il accepte toutes les mitzvot de la Keuna, une mitzvah il n'accepte pas, dehors, haos. On ne te reçoit pas dans le Beth Amikdash, tu ne travailles pas dans le Beth Amikdash. Le Lévi qui va rentrer au Beth Amikdash pour faire son travail, ou dans les champs, ou dans les portes, eh bien son travail, s'il accepte toutes les mitzvot de la Lévia, sauf une mitzvah, dehors, on ne l'accepte pas. Un chaver qui veut devenir quelqu'un sur lequel on compte par rapport à la pureté, à l'époque où on mangeait Betahara, etc., par rapport au Maasrot, par rapport à l'Achot, au Chumrot, qui va faire, est-ce qu'on peut compter sur lui ou pas compter sur lui? S'il accepte toutes les conditions de la chaverout, on l'accepte. S'il y a un tnaï qu'il rejette, dehors, tu n'es pas accepté, tu n'entres pas dans le système. Pour nous, c'est la même chose en valeur absolue. Nous, on a beaucoup de choses qu'on n'accepte pas en valeur absolue. On ne dit pas, mais qu'on ne fait pas. qu'on n'arrive pas jusque-là. Il y a des choses dans lesquelles on tombe sans avoir de mal au cœur quand on est tombé dedans. C'est classique, on est habitué déjà et puis on ne change pas beaucoup. A priori, on est en dehors. Mais d'une autre part, avec notre situation, après 2000 ans de galoute, 2000 ans de galoute du peuple d'Israël, en ayant tourné dans tous les pays du monde, le peuple d'Israël est encore là. Le peuple d'Israël reconnaît encore la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël dit encore « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». On fait encore quelques mitzvot. Mais il faut savoir qu'à notre génération, le fait même d'être prêt à faire une des choses de la Torah à 100%, parce que c'est la volonté d'Hachem, parce que c'est lui qui nous le demande, eh bien c'est déjà une partie, on prend part à la construction du royaume d'Hachem. Il ne faut pas voir à l'envers, il faut voir le côté positif de la chose. Eh bien, cette tshuva qu'on nous demande, dit le Rachash, dans le Drasha de Rosh Hashanah, c'est au moins faire une tshuva véritable sur une de nos fautes. On ne peut pas tout faire, ok. Bien entendu, il faut réparer tout ce qu'on est capable de réparer. Il y a des choses qu'il faut juste apprendre et savoir pour, pour réparer, il n'y a pas de yetzerara, de mauvais penchants graves pour beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on tombe. Donc ces choses-là, très facilement, on peut les réparer, on doit les réparer, il n'y a rien à dire, c'est évident. Mais pour exprimer, Bémet, cette prise de conscience et cette prise de responsabilité de recevoir sur nous le royaume d'Hachem, de s'engager dans le royaume d'Hachem Itbar, il faut donner quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et une de ces choses qu'on n'a pas envie de faire, s'écraser, changer, s'engager, le prendre sur nous de façon claire, regretter toutes les fois qu'on n'a pas fait cette chose et accepter sur le futur que jamais on ne retombera dans cette faute. Par rapport à une mitzvah, dit le Rachash, à partir du moment où on a fait une tshuva réelle sur un des points de toutes les fautes qu'on a, sur un des yetzarim qui en fait nous dérange et nous demande une bataille, et bien par rapport à ce yetzarim, ce n'est pas un grand yetzarim, mais un petit yetzarim, mais on a une difficulté, et bien quand malgré notre difficulté, on s'engage à faire quelque chose de positif, cet engagement, c'est une acceptation en fait du royaume d'Hachem Itbar sur nous, et c'est un dévoilement du royaume d'Hachem Itbar. Cette tshuva merveilleuse, c'est une tshuva en fait qui libère doucement, doucement la Shrina de son Beit Sohar, de sa prison, qui enlève et détruit ces barreaux qui nous séparent, donne la possibilité à la Shrina de s'exprimer, de déverser sur nous tout le chesed qu'elle veut exprimer sur nous. Je voudrais parler juste de deux points. Un point, je ne sais pas si vous avez connu, vous êtes encore jeune, mais il y a 40 ans, quand on a besoin de téléphoner, c'était une paire de manches. Il fallait sortir de l'immeuble, chercher dans une rue où il y a une cabine téléphonique. Il n'y en avait pas partout, il y en avait quelques-unes dans la région. Avoir une pièce qui n'est pas une pièce de monnaie, mais qui a un simone, dans laquelle il y a un trou et il y a un passe qui rentre dans le trou qui correspond dans l'appareil téléphonique pour pouvoir appeler, pour pouvoir donner une sicha. À cette époque, personne n'avait téléphone à la maison, ou presque personne, et personne n'avait de téléphone dans la poche. Il n'y avait aucun c'est même pas en imagination. Eh bien, à cette époque, les gens vivaient de façon beaucoup plus équilibrée. Quand le mari rentre à la maison après sa journée de travail, sa journée au collège, là où il est, en fonction de ce qu'il fait, eh bien, il rentre à la maison et il vit sa maison. Quand il vit sa maison, il a une vie de qualité, de comportement, de pensée, de chibour, d'attache avec sa femme, qui est propre, qui est net uniquement pour elle. Lui, il ne pense pas à ses copains, à ses amis, à ses affaires, etc. Elle ne pense pas à ses amis, ses copains, à ses affaires. On est là ensemble et on va parler, on va discuter, on va vivre. À notre génération, on rentre à la maison, personne n'est concentré dans personne. Le mari n'est pas avec la femme, les femmes n'est pas avec le mari, le téléphone sonne toutes les deux minutes. Si ce n'est pas, il sonne, alors c'est des annonces. C'est, il est branché sur un machin qui a vendu tout le monde entier, qui en a fait des narcomanes de premier niveau. On est tous tendus à ces marcherimes de folie qui nous ont rendus dingues. Eh bien, à ce moment-là, on a perdu toutes les possibilités de construire une vie familiale réelle, minimale, minimale. Et c'est pourquoi les divorces se multiplient en quantité infinie. Et c'est pourquoi les problèmes de Shalom Bayit, même quand on n'arrive pas à cet état de divorce, touchent presque tout le monde et que personne ne raconte de bêtises. On a des disputes, on a des batailles, etc. Si on veut, on peut régler. Si on est un homme, on se bat et on construit ensemble et on avance ensemble et on termine avec ces problèmes. Mais il faut être concentré pour le faire. Il y a des recherches qui ont été faites à l'étranger chez les goïms, pas chez les juifs. Ces recherches prouvent en fait qu'une personne qui a dans la poche un appareil téléphonique, téléphone, ce qu'on appelle aujourd'hui, un téléphone portable pour les Français, aujourd'hui c'est plus un téléphone portable, c'est une valise portable pratiquement, eh bien on l'a, apparemment on a cet appareil dans la poche, même si on ne l'ouvre pas, on n'appelle pas, on ne reçoit pas de téléphone. On est au milieu de notre travail, la concentration de la personne baisse de dizaines de pourcents. Il y en a un qui a dit 26%, il y en a qui ont dit 26%, ça représente quelque chose quand même. Mais malgré tout, on perd le contact et la responsabilité qu'on a par rapport à notre travail. Je ne parle pas de l'étude de la Torah où c'est des gros pourcentages, c'est pas seulement 26%. Mais quand on parle même de quelque chose de mécanique, de technique, quelqu'un qui travaille sur une chaîne de Peugeot et qui doit mettre un boulon à chaque fois que le truc arrive devant lui, eh bien, il rate son travail. Son travail est mal fait. Les réparations de toutes les erreurs qui sont faites se multiplient. Plus on avance dans le temps, plus on se multiplie. C'est pour ça qu'on essaie de tout faire par robot. Parce qu'avec les robots, au moins, eux, ils n'ont pas de téléphone. Comme ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas la tête ailleurs. Ils sont branchés sur ce qu'ils font et ça se fait automatiquement. Mais quand on utilise les hommes, on multiplie les problèmes. Pourquoi ? Il n'y a plus de concentration. Une dame travaille dans un bureau, elle reçoit des téléphones, des téléphones qu'elle n'entend pas. Il y a des réponses qui sont faites, on répond blaïnian, des fois on répond pas du tout blaïnian. on ne répond pas ce qu'il faut répondre, on ne parle pas, on n'a pas le calme pour répondre comme il faut répondre aux gens qui nous appellent. Ce n'est pas seulement dans le travail, c'est avec les enfants. On voit des gens, des femmes qui se trouvent dehors avec un enfant, deux enfants, trois enfants, il suffit qu'un pleure, laisse-moi, tu me déranges, tu me saoules, tu arrêtes, et bien là, t'es comme ça. Laisse-moi, laisse-moi. C'est pas comme ça qu'on fait grandir les enfants. C'est plus une mère. C'est même pas une mère poule. C'est une catastrophe. C'est un aigle. On ne fait pas grandir les enfants de cette façon. On détruit l'éducation de nos enfants. Et c'est pour ça qu'on a les conséquences. Des enfants qui deviennent des voleurs et des tueurs et des bandits, des brigands. Ou des narcomanes. Eux aussi, ils prennent leur truc quand ils grandissent. Et puis voilà, ils saoulent, ils rentrent dans un monde qui n'existe pas. Et vivent au virtuel. Et puis c'est fini, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On est plongé dans la bêtise, plongé dans la toum, et puis c'est fini. L'avance technologique a détruit la chevra, la communauté. Ça n'existe plus, chacun pense à lui-même. On ne voit plus le voisin quand il passe devant nous. On ne se rend pas compte quand on est sur la route et qu'un ami passe, qu'il y a un ami qui est passé à côté, tu es plongé dans ton monde, dans tes bêtises. Dans le monde de la Torah, ces choses aussi s'expriment. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand il n'y avait pas tellement de téléphones, il n'y en avait pas tellement, eh bien, à l'entrée d'une yeshiva, tu ne voyais personne, tout le monde était à l'intérieur en train d'étudier. Quand ils sortaient, et c'était la fin du seder et que les gens sortaient à l'extérieur, tu voyais les talmidim suivre leur maître, le maître qui parle avec les talmidim, ou les rabbanim qui vont ensemble et qui discutent entre eux de l'imout, ça n'existe plus. Tu vois les gens sortir, ils ouvrent le téléphone, ils ont un téléphone, la banque, ils ont... c'est fini. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'exemple positif, on n'est plus plongé dans ce qu'on fait, on est plongé dans toutes les directions. Et quand on est plongé dans des dizaines de directions en même temps, on ne fait rien de façon correcte, rien de façon correcte. C'est badoukoumou, c'est impossible de faire quelque chose de correct quand on est plongé dans deux directions. À plus forte raison, dans des milliers de directions. Cet appareil qui est là, le fait même d'avoir la possibilité d'être en ligne avec le monde entier, ça nous branche dans le monde entier, dans toutes les directions du monde. Que le monde entier peut nous appeler, on est branché automatiquement dans le monde entier. Eh bien, ces choses-là, en fait, nous détruisent. Et c'est pourquoi j'aurais voulu demander, vous êtes des jeunes, vous avez la vie en face de vous, vous avez beaucoup de chances de réussir. Cette génération, c'est une génération qui s'appelle Oumala, Aretz Dea et Hashem, Kamaim Layam Mechassim. Avant la venue du Mashiach, je vois qu'on déverse dans le monde une intelligence qui n'existait pas dans les périodes qui sont passées. On a aujourd'hui des jeunes qui arrivent à des niveaux exceptionnels. Chez Aor HaChaim, chez le Rav Elbaz, tu as un jeune qui avait un essai de mechoniot, de voitures, de location de voitures, de réparation de voitures et de vente de voitures, etc., qui a tout laissé tomber. Aujourd'hui, il a un Dayan recherché et il ne veut pas prendre de Dayanout. Il est baki dans tout le chasse, à l'endroit et à l'envers. Il connaît chaque tosfot. Tu peux faire un examen avec une épingle, lui dire qu'est-ce qu'il y a écrit ici, sans d'appim en dessous. Et il te dit ce qu'il y a écrit là-bas, sans d'appim en dessous. Toutes les pages du chasse, elles sont dans la tête, elles sont claires, elles sont nettes. C'est une chokhma qui n'existait pas. C'est une chokhma qu'Akadosh Baruch Hu dévoile à notre génération. Les goyim l'utilisent pour développer, 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 développer. C'est cette même chokhma qui descend dans ce monde. Eh bien, on peut utiliser cette chokhma pour le bien, pour faire des choses positives. Eh bien, un bon conseil, savoir que lorsqu'on apprend, lorsqu'on fait quelque chose de positif, on éteint le téléphone plus, on le laisse dans la chambre, le plus loin possible. Et à ce moment-là, quand on rentre au Beit HaMidrash, on est libre, on est coupé. On n'a plus de lien avec quoi que ce soit. Quand on est marié, dire à la femme, sache, tu veux que je meure aujourd'hui ou que je meure dans 120 ans? Il vaut mieux que je meure aujourd'hui une demi-journée et que la demi-journée je sois vivant, que je meure aujourd'hui toute la journée. Si tu m'empêches d'être plongé dans mon limou, dans heures d'études, eh bien c'est moi qui vais perdre. Je vais perdre la tête, je vais perdre la force, je vais me fatiguer, je vais sortir, je vais perdre ma vie. Au lieu de faire grandir une famille de blé Torah, de tzadikim, je vais faire grandir une famille de gosses qui jouent dans la rue. Laisse le téléphone à la maison. Il y a toujours des téléphones publics dans lesquels on peut appeler, presque dans toutes les yeshivantes, un téléphone. Quand la femme a besoin de quelque chose, on peut toujours appeler, on appelle, dis-lui que j'ai besoin de lui, d'achouf à la maison. Et vous allez voir que tous les d'achouf qui existaient jusqu'à présent vont s'envoler comme des petits oiseaux. Il n'y aura plus d'achouf pratiquement. Une naissance, à l'époque où nous n'avions pas de téléphone, on n'a jamais raté une naissance avec notre femme. Jamais. Toujours, elle a pu nous avoir lorsqu'elle avait besoin pour la naissance, même si on n'avait pas de téléphone. Lorsqu'on ça s'est développé, alors on avait un bipère. Un bipère, c'était un petit appareil qui recevait un tzilzoul comme ce qu'ont les gens de la Hatzala. et tu reçois, tu sais qu'on t'appelle, c'est tout. Maintenant, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de parole, etc. Tu as compris qu'on t'appelle à la maison, on ne va pas faire ça au milieu de Bétamidrage devant tout le monde, sans qu'il y ait même une raison réelle. Tu as compris que ta femme, elle veut sortir et accoucher, ben, tu sors, tu vas accoucher, c'est tout. On était tranquille, on vivait tranquillement. On avait de la force pour nos enfants. On faisait grandir nos enfants de façon équilibrée. On vivait avec notre femme, une vie intense, une vie puissante. C'est comme ça qu'on a construit, qu'on a créé une maison, qu'on a créé une famille, etc. Mais aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, Rapratskel Avramsky, qui était un des grands de la génération précédente, il avait chez lui à la maison, parce qu'il était le Rav au début, il était le grand rabbin d'Angleterre, il est venu en Eretz Israël, il était dans la yeshiva de Slabodka, etc. Un grand Rosh Yeshiva, un grand Talmid Chacham. Alors il avait chez lui un téléphone à fil, un téléphone fixe à la maison. Quand il rentrait de la yeshiva le soir, la première chose qu'il faisait, débrancher le téléphone, il s'assied avec sa femme une demi-heure ou une heure, il racontait comment s'était passée la journée, il écoutait sa femme, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, et il discutait des choses qui touchaient leur vie, et leurs enfants, et leur famille, etc. Après une heure, il remettait la prise. C'était le même cinéma tous les jours, sauf Shabbat, bien entendu. Le fils était dehors depuis le début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Même s'il n'était pas dehors, il n'y avait pas de sonnette. Voilà, c'était ça, c'était leur vie. C'est de cette façon qu'on construit, va mettre un contact normal, une vie normale, En d'autres termes, une des choses qu'on peut prendre sur nous, et c'est quelque chose qui est dur pour nous parce que ben, on a envie de jouer, c'est des samines. On a envie, on a besoin. Si on est prêt à donner à Hachem Yitbar quelque chose, écraser cette volonté personnelle pour lui, se mettre à son service, pour faire un service qui va lui plaire, eh bien on appartient immédiatement à ce projet royal qu'Akadosh Baruch Hu veut construire dans notre monde. Et à partir du moment là, on a fait quelque chose de très positif dans notre vie. On a réussi notre vie par cette simple action. Et de cette façon, pour chacune des petites choses, chacun a ses besoins, chacun a ses... Alors une des choses, c'est cet appareil. Aujourd'hui, j'en parle à droite et à gauche. Dans les Batei Midrashot, au moins, pas de téléphone, rien dans le Batei Midrash. Laissez-le dans la poche, dans la veste à l'extérieur. Pas de Batei Midrash. Éteindre pour pas que ça dérange tout le monde. Ou mettre sur sonnette baisse, et puis c'est tout. Quand il y a même quelque chose de problématique, ta femme va essayer une fois, deux fois, si c'est même grave, elle t'appelle une troisième fois, il y aura quelqu'un qui passera, qui répondra. Ça ne rate pas. Donc, en d'autres termes, on va pouvoir étudier et récupérer tous ces pourcentages de concentration qui ont été perdus dans notre étude et dans notre avance, dans la réussite de notre vie. C'est un point. Le deuxième point, c'est être même clair avec nous. Il y a des grandes choses dans lesquelles on ne touche pas, parce que c'est trop gros pour nous, on n'arrive pas, etc. On a un gros, etc., on ne s'en sort pas. Quand même essayer de faire un compte, et chacun c'est un compte privé, ce n'est pas un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Si chacun doit faire mettre le conseil par rapport aux problèmes qu'il a, par rapport aux difficultés qu'il rencontre, essayer de chercher une petite chose qu'il peut accepter de façon où il va être sûr de l'accomplir. Quand il va s'engager, il va regretter de ne pas avoir été mekayem cette petite avera, cette petite mitzvah jusqu'à présent. Et à partir de là, il peut être persuadé, sûr, qu'il va, oui, s'il a bien regretté, il va s'engager, il va prendre ses responsabilités, il sera, oui, capable de le tenir. Eh bien, c'est un minimum, c'est en fait ce que le rachage demande de nous. Le rachage demande de nous de faire tshuva au moins sur une avera, une. Une avera, ce n'est pas la shonara. Non, ce n'est pas la shonara. Ce n'est pas une avera, c'est des milliards de avera. Une avera, c'est un détail dans ce issour de la shonara. Une avera, c'est un détail dans le nocé de la cachroute. C'est un détail dans le nocé de la vente pour profiter, pour manger, pour promener, etc. Être prêt à être mévater sur quelque chose pour Hachem Yitbar. Et ça, c'est donc quelque chose de personnel. Chacun doit faire son compte. Et c'est trouver quelque chose de simple par rapport auquel il sent une difficulté, il sent une bataille, il a une envie qui s'oppose à l'envie d'Hachem Yitbar et il annule cette envie pour faire la volonté d'Hachem Yitbar. C'est une tshuva shlema, Quand on arrive à faire une tshuva shlema, il faut savoir qu'on a été mekayem une mitzvah assez deoraita, shel veshavta. On n'est pas encore arrivé ad Hachem Elokecha, on a encore de la route, mais Akadosh Baruch Hu va voir que bemet on a une volonté, il va nous donner un tafkid, il va nous donner de la vie pour l'année prochaine, il va nous permettre, oui, d'avancer doucement, doucement. Et il faut savoir que lorsqu'on a fait quelque chose de bien, une avance positive, eh bien on a une lueur de Kdusha qui nous habille et qui va nous donner la force de faire beaucoup plus que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui dans tous les domaines. Donc le fait même de s'engager par rapport à un point, c'est déjà monter sur le train qui va nous amener au but de notre vie. Et le fait de montrer, c'est déjà la plus grande réussite qui puisse être. Si on est sur la bonne route, si on avance dans la direction, si on a fait un pas vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va faire deux pas par rapport à nous. Et à ce moment-là, très vite, on va s'approcher, on va arriver à changer par rapport à tous les niveaux. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette année une année de vie, une année de réussite. Cette vie qu'on demande, c'est pour son service, comme on dit dans la tefila. Zochrenu lechaim, rappelle-toi de nous pour nous donner la vie. Vekotvenu besefer chaim, inscris-nous dans le livre de la vie. Lema'anach Elokim chaim, une vie qui va être utilisée à ton service, Hashem Yitbarach. Amen. Amen.